Bonjour, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour cet épisode 40 de ITcast du 3 février 2017. Deux invités aujourd'hui qui nous prouvent encore une fois que le data center et Windows Server ont encore de beaux jours devant eux. Tout d'abord, Sefala Tagrirout est avec nous pour nous parler des nouveautés des clusters Windows Server 2016. Notre second invité, Mickaël Lopez, nous parle également de nouveautés de Windows Server 2016, mais cette fois-ci celles qui concernent Hyper-V. Mais avant cela, Maxime est bien sûr fidèle au poste et nous a apporté quelques chiffres sur le MS Cloud Summit de la semaine dernière. Quant à moi, j'avais envie de partager avec vous mon expérience récente sur la supervision des containers. Tout de suite la suite et bon épisode. Eh bien bonjour à tous, bonjour Maxime.
Bonjour.
Maxime, pour ce nouvel épisode, on a deux invités.
Oui, Sefala et Mickaël.
Voilà, Sefala et Mickaël. Donc Sefala, bonjour.
Bonjour à tous.
Sefala Tagrirout, tu es en région, puisque d'habitude tu es pas loin d'un endroit que j'apprécie particulièrement qui s'appelle le Cours Mirabeau.
Eh oui, tout à fait, Aix-en-Provence.
Aix-en-Provence. Et puis aujourd'hui, tu n'es pas au Cours Mirabeau, tu es plutôt près de la vieille ville de Nice.
Exactement, je suis près de la ville de Nice parce que actuellement, je suis en mission chez un client qui est du côté de Sophia Antipolis.
Super. Et puis notre deuxième invité, c'est Mickaël Lopez. Mickaël, bonjour.
Bonjour à tous. Bonjour à tous.
Donc toi, tu es plutôt en région parisienne.
C'est ça, pas très loin de Paris, donc.
Et vous êtes tous les deux MVP.
Nous sommes tous les deux MVP sur la même spécialité, on va dire, sur la partie Cloud and Data Center Management.
D'accord. Des spécialités chacun ou vous êtes tous les deux spécialisés dans les mêmes choses?
On va dire, moi, je suis plus sur la partie virtualisation quand même. Et puis après, tout ce qui est partie Windows Server, etc.
Mm-hmm. Oui, c'est à peu près pareil. Je suis un peu profit-touche-à-tout, mais je pense que notre cœur de métier reste quand même la partie virtualisation et industrialisation dans le SI. Puis après, on se rajoute des petites compétences sur des produits plutôt intéressants.
Donc, Mickaël, je sais que tu travailles pour Azeo.
Exactement. Donc, je suis consultant IT and Cloud chez Azeo, donc la même entreprise que Maxime.
Eh
donc,
oui,
une entreprise spécialisée dans les technologies Microsoft.
Et qui est assez proche de nous. Hein. Il y a des anciens de chez Microsoft, chez Azeo, pas mal. Et Sefala, tu es...
Et donc, moi, je suis consultant donc infrastructure et cloud chez Sogeti du groupe Capgemini. Donc, un gros partenaire également de Microsoft.
Pardon, effectivement. Donc, vous allez nous parler de Windows Server 2016, et plus particulièrement pour Sefala du cluster, hein, je crois.
Bien sûr, tout à fait.
Des nouveautés des clusters, et puis pour Mickaël, des nouveautés de Hyper-V.
C'est ça.
Maxime, on va commencer, avant de parler de Windows Server 2016, on va commencer par l'événement qui a eu lieu la semaine dernière.
Bah c'est ça, exactement, le MS Cloud Summit. Alors, j'espère que vous avez tous écouté notre ITcast numéro 39, qui était en fait des petites interviews de personnes présentes au MS Cloud Summit. Alors, on avait interviewé des organisateurs, des speakers, des conférenciers, enfin des participants. Mmh. Et donc, le but, c'était de prendre un petit peu la température sur place, de savoir ce qu'ils avaient aimé, ce qu'ils avaient vu. Et franchement, on a eu un retour très très positif de cet événement. Donc, pour info, c'était le premier événement organisé par les cinq communautés qu'on connaît tous, Agile.net, AOS, CMD, AzuGFR et le GUS. Et donc j'ai quelques stats officielles à vous partager.
Ah, on est toujours friand de chiffres. Alors.
Typiquement, donc on a grosso modo 800 participants sur les 3 jours. Dont 100 personnes pour les préconférences. Donc, il faut savoir que l'événement était sur 3 jours. Un premier jour de préconférence, donc c'était c'était entre, on va dire, la session et le lab technique, ce qui permettait de rentrer de manière deep dive sur des sujets particuliers. Notamment, Mickaël, hein, qui a animé une préconférence le premier jour sur le. C'était à partir Windows Server 2016.
Exactement, ouais. J'ai eu la chance de partager donc la pré-conférence avec Jean-François Berenguet, notre ami du Sud et le fondateur de la communauté CMD, et Romain Serré, que vous avez interviewé à la dernière, pendant le dernier ITcast, justement.
Ouais.
Et donc, du coup, on a eu une journée avec 11 personnes sur lesquelles on a fait un beau deep dive sur Windows Server 2016, avec un focus un peu sur tout ce qui était virtualisation du stockage.
Oui, puis précisons que les slides, le PowerPoint de cette journée complète sont également publiés.
Je les ai vus. Exactement, c'est disponible sur mon SlideShare, donc n'hésitez pas, si besoin, de reprendre des choses.
Et ça, grosso modo, on est aussi en train de centraliser plus généralement toutes les présentations des speakers, ce qui permettra d'avoir un contenu centralisé pour tout le monde. Parce que c'est vrai qu'à l'issue de mes sessions, par exemple, on m'a beaucoup demandé le contenu et du contenu aussi sur les docs Microsoft et des blogs pour aller un petit peu plus loin. Donc voilà, c'est un gros événement. Assez compliqué, mais super intéressant à organiser. Hein. D'ailleurs, un grand bravo à tous les organisateurs, donc Patrick, Jean-Pierre, Isabelle, Estelle, il y avait Jeff aussi, Jean-Luc, Aurélien, William, Gokhan, donc voilà. Bravo à tout le monde.
Et toi-même.
oui, aussi. Ouais. Donc voilà, il y avait 350 personnes chaque jour, plus de 600 participants en distance sur les 3 jours, 14 pays, parce qu'on avait aussi des participants et des speakers qui venaient de l'étranger, donc ça c'est aussi un point super important. Et quand on regarde, on avait au final plus de 230 sociétés diverses et variées de participants, de speakers. Donc voilà, une vraie communauté Microsoft active et ça fait plaisir à voir que ben voilà, cet événement a plu, qu'on avait du monde, que le contenu a retenu l'attention de pas mal de personnes, c'était intéressant et je pense que les gens en redemandent. En tout cas, c'est le feedback que j'ai eu.
Alors, ce qu'il faut noter également, c'est que quand tu dis 800 participants sur les 3 jours, c'est-à-dire 800 inscriptions, enfin 800 tickets, puisque en personne unique c'était 600, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça, oui, parce qu'après il y avait des personnes qui étaient là plusieurs jours. Donc voilà, en termes de participants uniques, on est plus autour des 600. Mais voilà, en termes de participants total, des personnes sont revenues, ont assisté aux 2 jours. Donc ouais. Voilà, c'était assez actif en termes de participation.
Mais sur ces 800 entrées, en fait, si on peut dire, le taux de chute est vraiment très faible, puisqu'il y avait combien, 900, un peu plus de 900 inscriptions ?
Il y avait 9, ouais, c'est ça, dans les 920 inscrits, donc au final, ouais, il y a une centaine de personnes qui ne sont pas présentées.
Donc c'est très bon score pour un
ouais,
tel
ouais.
Pour un tel
globalement,
événement,
on est super content de ces chiffres-là, de la participation, et même s'il y a toujours un petit pourcentage de no-show, comme on appelle ça dans le jargon technique. Non, franchement, c'est...
Les personnes du métier, ça y est, Maxime, voilà. T'en fais partie.
Je ne suis pas encore du métier, hein. On en est très très loin.
Enfin, le no-show en région parisienne, en général, c'est plutôt 50% que là, même 10%. Quoi.
Ouais, après, il y avait le prix, effectivement, qui a permis, on va dire, à motiver un petit peu les gens. Et au départ, on pensait que ça allait être un frein à la participation, et au final, on s'est aperçu que pas du tout.
Il était raisonnable.
Donc, voilà, c'était assez sympa comme truc.
Et puis il faut rappeler quand même, participer donc à une journée de pré-conférence avec des experts comme reconnus dans leur domaine pour une somme quand même qui était pas si élevée que ça, je trouve ça quand même intéressant pour venir apprendre des choses parce que dans une salle de formation par exemple, on peut voir que le prix quand même est beaucoup beaucoup plus cher.
Et précisons... C'est ça, ouais, la participation était à 150 euros, donc voilà. C'était un petit peu plus cher qu'une conférence classique, enfin que les 2 autres jours. Mais clairement, quand on regarde le prix de formation dédiée dans des centres certifiés, ouais, on en est très loin, quoi.
Voilà. Alors, moi, j'aimerais juste un petit mot. J'aimerais vraiment remercier déjà effectivement l'organisation, comme tu l'as dit, mais les 11 participants que j'ai eu dans ma session. Pour moi, c'était une première de faire une session aussi longue. Puisqu'en fait, on a l'habitude souvent de faire des sessions d'une heure, 2 heures maximum, et on a toujours un peu la peur de... On respecte jamais les timings, c'est ça qu'il faut dire. Et, et là, en fait, sur une journée, c'est vraiment un échange qui a été, enfin, pour moi, très enrichissant, puisqu'on a le temps de se poser, de parler vraiment des technos, de pouvoir rentrer dedans vraiment, de pouvoir faire de beaux deep dives, d'avoir des retours aussi, puisque les personnes qui étaient présentes soit avaient déjà touché à Windows Server 2016, soit même étaient déjà sur le des bouts de production dessus. Et on avait des retours un peu à chaud avec des vraies questions sur la migration 2012 vers 2016. Et en tout cas, pour moi, c'était vraiment un très bel échange. Et donc, du coup, bah, merci à eux.
Alors, je tiens à préciser également que l'événement MS Cloud Summit, globalement, a été organisé par les communautés uniquement. Microsoft n'avait rien à voir là-dedans. Donc, en tant que Microsoft, je dois le préciser quand même.
Vous étiez quand même sponsor.
Voilà,
hein,
mais, on a été un
voilà,
des sponsors.
Vous avez quand même participé à votre manière, mais c'est vrai que toute l'organisation a vraiment été faite par les communautés.
Voilà, et c'est une belle organisation, un beau succès. Donc bravo, et puis j'espère rendez-vous la prochaine.
Oui, il y en aura sûrement. Hein, oui.
Espérons bien, oui.
On ne sait pas quand, mais en tout cas, je pense que...
Le lieu était vraiment sympa. Le New Cap, bien placé.
Le cadre super est bien placé, effectivement. Ouais. Ouais. Super bien placé, juste à côté du métro, en plus. Pour quelqu'un qui vient du sud comme moi, qui a toujours l'habitude de se perdre à Paris, c'était parfait.
Ouais. J'ai eu la chance... de participer aussi à une bonne bouffe le soir du premier jour.
Ouais.
Je sais pas si c'est le cas de tout le monde, de vous tous, mais...
Malheureusement, pas mon cas, mais...
Non,
moi, j'étais trop fatigué pour manger, je suis rentré direct.
T'as loupé quelque chose avec CMD, avec la communauté CMD.
Oui.
Et puis, tiens, je remercie également la société Metsys qui nous a accueillis gentiment pour boire un coup le soir.
Ouais, donc un grand merci à tout le monde et voilà, ça fait plaisir de voir que dans la communauté Microsoft, bah, y a des personnes qui se déchirent, il y a des personnes qui sont là, qui sont des références techniques, des références dans tout l'écosystème Microsoft et ça fait plaisir de les retrouver dans ce genre d'événement.
Donc avant de passer la main à nos amis Céphala et Michael, je voulais dire un petit mot rapide. Suite à une présentation que j'ai faite aujourd'hui en fait et qui concernait les containers dans le monde Microsoft, notre stratégie, etc., etc. Et en particulier en parlant des containers et de Docker dans le monde Windows et Azure, j'ai pris l'angle un petit peu DevOps pour raconter une histoire, parce que dans une présentation c'est bien d'avoir un début, vous savez, un début, un milieu, une fin, donc une histoire à raconter. Et donc en prenant le cycle de vie d'une application selon l'angle DevOps et les containers, il y a un moment, à la fin du cycle, quand on parle de ça, il y a toujours le petit moment où on va parler de la supervision qui permet de boucler la boucle. Vous savez, hein, on développe, on push nos containers dans un référentiel. Ensuite, les ops prennent ces containers, vont les déployer dans des clusters. Et il y a un moment où on dit, bon, après, on fait un peu de supervision, de monitoring.
Il y a un moment où on n'a pas le choix. Hein. Il va falloir le faire.
Voilà. Quand on veut faire de la prod, et c'est une question qu'on se pose souvent quand on parle de Docker et de containers, c'est est-ce qu'on fait de la prod avec ça? Est-ce qu'on a des clients qui mettent en prod?
On en parlait avec Fabien la dernière fois. Hein,
exactement.
Il était venu pour la partie Docker. On se demandait, bah voilà, Docker c'est bien beau, notamment sur la partie Windows Server, mais est-ce que des clients passent en prod dessus? Est-ce qu'on le voit, quoi?
Et donc, qui dit prod dit effectivement cluster, disponibilité, passage à l'échelle, etc. Mais également supervision. Et donc, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait en termes de supervision des containers. Grâce à Azure et donc grâce à la technologie de supervision qu'on a dans Azure qui s'appelle OMS et en particulier Log Analytics, donc cette concentration de logs qu'on va concentrer au sein de OMS et ensuite qu'on va traiter grâce à des solutions qu'on va inclure dans notre portail OMS. Donc OMS, hein, je rappelle, c'est Operations Management Suite. Vous avez touché un petit peu OMS tout autant que vous êtes là?
Ouais, complètement. Je l'ai déployé dans mon environnement de test. J'ai mis des clients sur tous mes Windows Server et voilà, je l'utilise comme dashboard de monitoring. Avant, j'avais fait Mumuse avec SCOM et maintenant, je suis passé à OMS, quoi.
D'accord. Moi, je suis
pareil. Moi, la partie SCOM était un peu. J'ai trouvé qu'un OMS, quand même, quelque chose de quand même de beaucoup plus complet et beaucoup plus intuitif par rapport à la supervision. Donc, bon, je reste quand même un amateur de la solution, mais je teste de temps en temps cette solution, effectivement.
Après, on peut faire du mode hybride, je crois, hein, entre SCOM et OMS, hein, si on veut.
Totalement, ouais. Enfin, Log Analytics peut même se brancher à du Nagios, donc oui, mais c'est pas réfractaire, du moins, ça prouve encore une fois une belle ouverture de la part de Microsoft sur ce genre de produit. Mais OMS n'est pas que Log Analytics, hein. C'est une belle offre complète qui mérite au moins de regarder ce que.
Oui, ce que ça fait, quoi.
Parce qu'à l'intérieur, c'est là qu'on va retrouver aussi le backup, le disaster recovery, le PRA, etc.
On a même maintenant, pour faire de l'assessment de post-compatibilité Windows 10, on a une partie, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, c'est Windows Compatibility, je ne sais plus quoi, qui permet, en fait, c'est un dashboard OMS hein, derrière, qui va nous donner la compatibilité de notre parc.
Ouais, c'est un très beau produit et une partie automatisation aussi qui permet de traiter les mises à jour de ces serveurs aussi par OMS. Donc en fait, on peut avoir notre dashboard qui nous prévient si nos serveurs sont à jour ou non. Et on peut le traiter automatiquement en disant, ben voilà, mets à jour mes clusters petit à petit. Donc c'est vraiment un produit qui vaut le détour, au moins ne serait-ce qu'en développement de test. Et en plus, on peut le dire, il y a une version gratuite. Donc limité certes, mais qui permet vraiment de faire un petit tour surtout de Log Analytics.
Voilà, et donc j'ai regardé ce qui se faisait au niveau des containers et j'ai trouvé deux articles intéressants que je vais mettre sur l'article. Un qui concerne la solution qui s'appelle Containers, qui est toujours en preview. Et un deuxième article qui concerne le monitoring des containers qui sont dans des clusters Azure Container Service. Avec Mesosphere DCOS. Donc le premier concerne simplement le monitoring de containers. Et comment ça marche, en fait, c'est simplement à partir du moment où on a des serveurs Linux qui font tourner le Docker Engine et des containers, si on installe sur ces serveurs Linux, donc qui peuvent être soit dans Azure, soit dans le cloud, soit ailleurs, hein, soit en premise, le lieu n'a aucune importance pour ces serveurs-là, on installe l'agent OMS avec notre clé OMS, donc l'identifiant de notre instance d'OMS et notre clé, automatiquement le serveur va renvoyer à notre Log Analytics dans OMS les compteurs de perf, tous les compteurs de performance, dont ceux qui concernent les containers. Donc on va avoir notamment toute la consommation de ressources de chaque conteneur individuel dans Docker. Donc déjà, ça, c'est super intéressant parce que ça nous permet de suivre la consommation en ressources, l'état, les erreurs, etc., les plantages de nos conteneurs directement dans nos tableaux de bord Log Analytics. Et la solution donc, nous présente un tableau de bord standard qui regroupe les données des conteneurs d'une façon visuelle. En plus, ils nous mettent...
T'as beaucoup de customisation à faire pour avoir un dashboard lisible
tout seul ? De base, non. La solution nous propose un modèle de dashboard standard avec tous les basiques, quoi. Et nous propose sur la partie complètement à droite du dashboard, donc il faut scroller un petit peu vers la droite, pour atteindre une liste d'exemples de requêtes qu'on pourrait utiliser si on veut un petit peu creuser dans les logs concernant les containers. Maintenant, ils sont allés une étape plus loin en se disant bah, c'est bien gentil ça, mais en prod, en fait, on a des architectures un petit peu plus élaborées que des simples serveurs avec le moteur Docker. On a des clusters et il faut surveiller tout ça. Donc, pour ce qui est de Azure Container Service avec DCOS, donc ils se préparent, ils préparent ensuite la prise en compte des ACS en mode Swarm et en mode Kubernetes, mais pour l'instant, ils l'ont fait pour DCOS, puisque c'est le plus répandu, en fait, le Mesosphere DCOS. Ils ont mis cet agent de monitoring OMS sous la forme d'un container qu'ils proposent directement dans ce qu'on appelle l'univers de containers, de services dans le vocabulaire Mesosphere, à l'intérieur de Mesosphere. Donc on va dans le portail Mesos, on va dans la partie univers, et on installe un service MSOMS, qui est donc un container avec l'agent OMS. Donc on dit sur combien d'instances on veut le déployer. Moi j'avais 6 nœuds, je l'ai installé sur mes 6 nœuds, et 2 secondes après, on a notre agent OMS dans un container, dans le cluster. Et ces conteneurs vont remonter instantanément leur métrique dans notre tableau de bord container.
Donc du coup, c'est hyper simple à déployer en fait. Hein.
C'est méga simple.
Du moment, ouais, c'est clair.
À partir du moment où on a accès au portail Mesos, donc avec la manip classique du portail Mesos, où il faut faire un tunnel SSH pour accéder au portail à l'intérieur du tunnel SSH, on installe le container en 2 secondes, directement depuis le portail, et ça marche tout de suite. Donc c'est vraiment quelque chose de sympa, de facile à mettre en œuvre. Ensuite, il faut creuser, alors, chose que je n'ai pas faite encore, les requêtes, la personnalisation des requêtes pour avoir des rapports un petit peu plus personnalisés. J'ai fait ça pour un besoin également que j'avais. J'ai une maquette en cours avec Accenture, dont j'ai déjà parlé sur le podcast, je crois, sur un système, une plateforme DevOps.
Me rappelle bien. Ouais.
Voilà, donc c'est une VM sur laquelle il y a 25 containers qui tournent en permanence, avec des Jenkins, des trucs comme ça. Et voilà, ça me permet de suivre les performances de ces 25 containers sur cette VM. Ce qui va intéresser mes amis d'Accenture également.
Tu m'étonnes.
Donc voilà, c'est simplement l'occasion de mettre sur l'article le lien vers ces 2 articles que j'ai trouvé intéressants cette semaine en fouillant un petit peu ce sujet. Ça date de quoi, de novembre dernier. C'est pas tout neuf, mais voilà, j'ai trouvé ça intéressant.
Ouais, ça fait toujours bien de faire un petit rappel, hein, c'est clair, parce qu'il y a tellement de techno, tellement de produits que des fois on s'y perd un peu.
Et surtout, ça va vite. C'est surtout ça, le rythme d'évolution qui est assez remarquable.
Alors, pour terminer sur OMS, OMS Cloud Summit, il y avait une presse fabuleuse de Rémi Bovy.
Exactement, avec Jean-François, justement.
Et Jean-François, sur le sujet, sur OMS. Ils connaissent le sujet parfaitement. Donc, à voir. Si les slides sont publiés, c'est à voir.
Merci Pascal, super intéressant. Donc, je pense que n'hésitez pas à lancer un trial d'OMS et de faire vos tests aussi pour monitorer vos conteneurs, mais pas que. Hein. C'est vachement complet comme plateforme, donc n'hésitez pas à mettre en place ça rapidement. C'est pas aussi lourd que du SCOM ou un autre outil de monitoring. C'est hyper simple à activer. À part quelques agents à déployer, il n'y a pas grand-chose à faire.
Oui, il y a même un module analyse de risque qui est assez bluffant sur du SQL Server. Je me souviens d'une démo où en fait la personne avait fait exprès de mettre sur son compte SA un mot de passe faible. Et en fait, installe l'agent, la personne installe SQL Server avec son mot de passe faible, et voilà, à la fin de l'installation, donc même pas une minute ou deux après, on a une remontée d'alerte dans OMS qui dit faille de sécurité, le SA est activé avec un mot de passe faible. Donc il y a aussi cette analyse-là de pouvoir détecter des petites failles qu'on pourrait oublier. Très intéressant. Si tu fais le test, Pascal, ça vaut le détour. Je pense que ça peut. On peut détourner le produit pour faire du micro-audit, un peu en mode task force. On a besoin d'auditer rapidement un environnement qu'on ne connaît pas, où on aimerait en voir un peu quelles sont les remontées de log, etc. Je pense que Log Analytics peut faire ce petit travail.
Tout à fait.
À creuser, chose intéressante, effectivement.
Tiens, Céphala, justement, tu voulais nous parler des nouveautés du clustering dans Windows Server 2016.
Alors, donc, comme vous le savez, et puis je ne vais pas vous l'apprendre, Windows Server 2016 arrive quand même avec énormément de nouveautés, en fait, donc comparé à 2012 R2. Et notamment sur la partie clustering, que je trouve qui est une fonctionnalité super intéressante, hein, je suis un adepte de cette solution. Et effectivement, en fait, dans cette partie-là, j'ai relevé quelques petites nouveautés qui sont vraiment, vraiment intéressantes et qui pourraient en fait, améliorer en fait, l'expérience au quotidien des administrateurs, des architectes, au niveau donc, de cette solution. Alors, en fait, moi, je vais juste, parce que je ne vais pas toutes les citer, mais je vais juste vous en parler en fait, de 3 petites nouveautés que je perfectionne particulièrement. Vous avez en fait le Virtual Machine Load Balancing. Donc, je vais en citer tout à l'heure ce que ça veut dire. Vous avez également les clusters workgroup. Et vous avez la partie en fait upgrade qui est bien sûr intéressante. Donc, la partie en fait migration d'un cluster sous 2012 R2 vers Windows Server 2016. Alors, donc, je ne sais pas si vous avez eu le temps un peu de tester ces fonctionnalités, notamment toi, Pascal. Je ne sais pas si tu as eu un peu des retours par rapport à ça ou par rapport à des clients.
Je n'ai pas testé les nouveautés du clustering, mais mm-hmm. j'en ai déjà entendu parler, effectivement.
D'accord. Parce qu'effectivement, moi, bah, en fait, bah, je travaille dessus donc, depuis la version, donc, bah, la TP1, étant adapté au Windows Server. Et donc, la première fonctionnalité, donc, le VM, le Virtual Machine donc, Load Balancing, en fait, c'est un peu l'équivalent à DRS, pour ceux qui connaissent. Donc, DRS, qui est en fait donc, le parti en fait, algorithme sous VMware. Donc, en fait, en gros, ça consiste à, en fait, à faire migrer une machine virtuelle. En fait, dans un cluster au sein entre différents nœuds, si en fait le nœud est trop sollicité, une machine virtuelle en fait elle sera automatiquement migrée vers un autre nœud qui est moins sollicité. En fait, ce qui permet, bah, forcément, vous l'aurez compris, de faire de la répartition de charges sur votre cluster, ce qui permet en fait bah, d'avoir les performances en fait les plus optimales possibles au niveau de votre serveur. Surtout en fait si vous avez bah, énormément de machines virtuelles et énormément de nœuds, cela en fait permet bah, vraiment d'optimiser en fait l'utilisation de ces machines virtuelles. En fait, l'algorithme en fait il va se baser sur en fait la surcharge du nœud. Donc, il va se baser sur la consommation CPU et RAM. Et à partir d'un certain seuil, en fait, ce seuil-là, vous allez le définir dans la configuration. Je vous mettrai donc, Pascal vous mettra et Maxime vous mettra le lien, en fait, pour pouvoir le configurer. C'est très simple. Et à partir de ce seuil, en fait, l'algorithme, en fait, va définir si oui ou non la machine virtuelle doit être migrée vers un autre nœud, puisque ce nœud-là, en fait, est surchargé.
Fait du live migration, alors, du coup.
Effectivement, en fait, très bonne question, enfin, très bonne remarque, Maxime. C'est, en fait, la machine virtuelle est migrée, donc, d'un nœud A vers un nœud B, en live migration, c'est-à-dire que vous avez zéro interruption en termes de service. Donc, la machine virtuelle continue de vivre pendant, en fait, sa migration, c'est-à-dire pendant son transfert vers un autre nœud, effectivement.
Ok. Ok, donc, on n'est plus sur du failover, là. C'est vraiment du load balancing.
Voilà, là, c'est vraiment du load balancing. Donc, c'est quelque chose qui est, d'ailleurs, pour l'avoir mis donc chez un client, c'est quelque chose qui marche très, très bien. Et qui, d'ailleurs, on est très satisfait de la fonctionnalité et de ce qu'elle peut apporter en fait bah, au quotidien, tout simplement. Parce que c'est vrai qu'avant, si vous n'aviez pas CVMM, vous ne pouviez pas bénéficier de cette solution. Ouais. Aujourd'hui, avec 2016, en fait, il est possible. Donc, juste sur la partie clustering, d'avoir cette fonctionnalité qui est plutôt sympathique.
Donc, chez ton client, je suppose que tous tes nœuds doivent être en 2016 pour que ça fonctionne ou tu peux.
Effectivement, ouais, effectivement pour que ça fonctionne, pour la... bien sûr, il faut que tous les nœuds donc, de ton cluster hein, soient en version, bien entendu, Windows Server 2016.
Chez ton client, chez qui tu as mis.
Pour ces cas-là, hein, et ça existe dans VMM avec Dynamic Optimization. Hein,
donc bien sûr, c'est ce que j'ai dit, oui, effectivement.
Tu parles de DRS, mais VMM l'avait aussi.
Le VMM l'a aussi, mais le problème, c'est comme je disais, c'est les gens qui n'ont pas VMM aujourd'hui ne pouvaient pas effectivement bénéficier de cette fonctionnalité. Et puis bah, aujourd'hui, on va dire que ça donne quand même plus de facilité.
Et puis enfin, VMM, c'est encore actif On n'entend plus trop parler quand même. Hein.
Ah bah tu as quand même la version 2016 hein, qui est là.
Ouais, comme à peu près tous les produits de la suite System Center. Après, il y en a d'autres qui sont plus...
Oui, effectivement. Ouais. Qui a le mérite d'exister. Donc oui, c'est... Après, je l'utilise pas trop personnellement, mais effectivement, ça...
Tout le monde n'est pas dans le cloud. Donc il y a encore System Center.
C'est ça.
Une majorité n'est pas cloud, on peut même dire, je pense.
J'avais une question, Céphala. Tu as dit que tu avais mis ça en œuvre chez un client. Donc ça veut dire qu'il a des nœuds dans son cluster de Hyper-V qui sont chargés, puisque c'est le but
exactement.
Du jeu. Hein. Jusqu'à combien de VM il était ce client-là? Parce que c'est rare de voir des serveurs Hyper-V qui sont vraiment très chargés.
Après là, en fait, on est sur. Enfin, je vais pas dire une grosse infra, mais en fait, sur ce cluster-là, j'avais à peu près entre 200 et 250 machines virtuelles.
Dans le cluster ou par hôte?
Dans le cluster, d'accord. Donc qui sont répartis en fait sur les 4 nœuds.
4 nœuds.
Voilà, ouais, c'est quand même. Nœuds, donc c'est une architecture plutôt classique, hein, donc il n'y a pas de VMM par contre, donc c'est géré que par la partie, donc la fonctionnalité donc cluster et failover. Et donc enfin, voilà, derrière une BSAN, derrière classique, effectivement, ça fait une petite infra bien sympathique.
C'était quand même un beau cluster, d'accord.
Oui, ça fait un bon petit cluster, effectivement.
C'est déjà bien de voir des clients qui ont déjà adopté Server 2016. Hein,
et bien sûr, bien sûr.
Par contre, encore avec les Bessan.
Un petit coup de pub, hein, un petit coup de pub, et puis il suffit que le client soit un peu geek, etc. Et puis bah, ça peut en fait bah, aboutir à des belles migrations, effectivement, oui.
Super.
Ouais, dans la formation,
ils n'ont pas froid aux yeux quand même.
Ouais, c'est pas ça, c'est que pendant la. Enfin, il y a des retours, on en parlera après, mais il y a des fonctionnalités qui sont intéressantes et qui ont sûrement répondu à des
sûr,
besoins aujourd'hui qu'ont certains des clients. Et du coup, pourquoi pas franchir le cap et aller tout de suite vers un OS voilà, on va dire, qui sera beaucoup plus longtemps supporté que 2012 R2, puisque 2012 R2 a déjà vécu.
Bien sûr. Et puis en plus, ce qui est bien, c'est que Microsoft, donc là, je vais faire la transition vers la deuxième fonctionnalité. Vous remarquez, en fait, Microsoft facilite le travail parce que pour aujourd'hui, en fait, quand on était par exemple sur 2008 R2 et qu'on voulait migrer son cluster vers 2012 ou 2012 R2, c'était quand même un peu plus compliqué. Alors qu'aujourd'hui, avec 2012 R2, si on souhaite migrer vers Windows Server 2016, notamment donc sur la partie cluster Hyper-V ou cluster de fichiers SOFS, par exemple, un scale-out file server, ben en fait, Microsoft facilite le travail, ce qui permet en fait, donc, d'avoir une migration en zéro downtime, c'est-à-dire que vous allez pouvoir migrer votre environnement. Prenons l'exemple d'un cluster sous Hyper-V 2012 R2, en fait, c'est la chose que j'ai réalisée chez le client. J'ai pu le migrer en fait sous un cluster Windows Server 2016 sans en fait interruption de service. Parce qu'en fait, la particularité, c'est que Windows Server 2016, la partie failover, elle peut accepter dans un cluster en fait des nœuds avec une différente version. C'est-à-dire que dans un cluster Windows Server 2016, on peut avoir un nœud sous Windows Server 2016 et un nœud sous Windows Server 2012 R2 par exemple. Ce qui permet en fait bah, de faire les nœuds un par un, ce qui permet du coup bah, de migrer totalement son cluster sous Windows Server 2016 de manière en fait, bah, en fait transparente pour les utilisateurs finalement.
C'est ça, c'est-à-dire qu'on a une notion de niveau fonctionnel du cluster.
Exactement, exactement. Ouais. On a une notion de niveau fonctionnel en fait qui permet du coup bah, de reconnaître le niveau fonctionnel du cluster et ça permet du coup bah, d'avoir, si vous voulez, en fait, des nœuds qui cohabitent mais avec une version différente, ce qui permet bah, du coup d'avoir de la haute disponibilité lors de vos migrations.
Donc on appelle ça le rolling upgrade.
Exactement, le rolling upgrade.
Alors ça, c'est dispo dans quelle édition? Parce que en 2012 R2, entre standard et data center, on avait exactement les mêmes fonctionnalités, mais si j'ai bien compris, sous serveur 2016, c'est pas la même chose. Alors du coup, ça fonctionne en standard ou en data center?
Écoute, pour le coup, moi, je l'ai testé sur la version data center, parce que puisque de toute façon, sur tes clusters Hyper-V, si tu peux pas avoir du standard, parce que tu seras limité au nombre de machines virtuelles. Ouais. Effectivement, donc si tu as un cluster donc Hyper-V, donc forcément sur du data center, et cette fonctionnalité fonctionne très bien sur bah, du data center directement.
Alors, elle fonctionne hein, en standard, il n'y a pas de souci. On sera limité, comme
voilà,
je disais,
limité.
C'est pas là. Mais bon, pour des clients qui ont que de la Red Hat ou de l'Ubuntu, pourquoi pas.
Voilà.
La différence majeure entre la data center et la standard autre, la partie licensing, c'est des fonctionnalités avancées comme storage space direct, storage replica, toute la partie software defined network, donc tout ce qui est virtualisation du réseau.
Bah, toute la partie SDS, en fait, toute la partie, si tu veux.
SDS, SDN, voilà, tout ce voilà, qui s'oriente ça, vraiment pour des, on va le dire, pour des grands comptes ou des gros workloads. Donc.
Voilà. Effectivement, oui, pour répondre à ta question, tu peux le faire en version standard, mais on va dire si t'es limité en nombre de machines virtuelles, ça, enfin, il y a pas trop d'intérêt, mais effectivement, si tu peux quand même le faire. Je veux dire, c'est pas limité, quoi.
Ouais, non, mais c'était surtout pour dire en fait que par rapport à 2012 R2, faut bien faire attention à la licence qu'on
fait. Au licensing, effectivement.
Au licence et à l'édition, ouais. Surtout.
Bien sûr, tout à fait. Et donc, en fait, moi, je trouve ça vraiment intéressant parce que du coup, ce qui est bien en plus. C'est vraiment très simple de faire cette manipulation. Alors, par contre, chose importante, c'est que Microsoft, en fait, quand on lit les docs officiels, hein, c'est qu'ils vous disent de faire l'upgrade en fait, de votre OS. Donc, vous êtes en 2012 R2, vous faites l'upgrade, donc vous passez en 2016. Il faut savoir, c'est que c'est marrant, c'est que pendant le MVP Summit, donc on parlait avec les équipes produits et on leur a fait un retour. Et effectivement, en fait, plus de, on va dire, plus de 60%, plus de la moitié des upgrades, en fait, elles partaient en fait, donc en cacahuète, hein, donc ça faillit dans tous les côtés. Donc la best practice, donc si on a un Hyper-V, donc un cluster Hyper-V ou un cluster de serveur de fichiers, parce que de toute façon le stockage est à part, en fait, vaut mieux réinstaller le système, donc le formater, le réinstaller, puis réimporter derrière votre stockage, l'attacher, soit vous avez une BSAN, soit l'ISSI ou etc., et de faire votre migration comme ça en fait, parce que quand vous faites l'upgrade sur place, en général ça fail une fois sur deux. Voilà.
D'accord.
Des problèmes réseau, des problèmes de driver, etc. Donc c'est quelque chose que nous avons fait remonter chez Microsoft, et ils sont effectivement plutôt d'accord, parce que tous les MVP dans la salle, on va dire, ils ont un peu gueulé sur cette partie là et puis du coup en fait le souci, c'est que ça vous si vous réinstallez effectivement votre système, ça vous oblige à reconfigurer vos réseaux, à faire vous repasser vos scripts PowerShell pour la partie la partie configuration, etc. Donc du coup Microsoft travaille là-dessus pour pouvoir en fait apporter quelques mises à jour qui permettent de faire un upgrade sur place de manière transparente et surtout sans erreur, quoi.
Cool. Et puis donc il y avait une troisième fonctionnalité dont tu voulais nous parler.
Une petite troisième fonctionnalité qui est assez sympathique aussi, c'est le cluster où on regroupe en multi-domaine. C'est-à-dire que jusqu'à présent, si on enlève 2016, pour avoir un cluster, donc forcément vous deviez avoir un annuaire, vos nœuds devaient être joints au domaine, etc. Avec 2016, en fait, Microsoft essaye en fait de séparer la partie cluster, en fait comme le fait VMware, c'est-à-dire que VMware aujourd'hui, quand vous prenez deux nœuds, vous avez la possibilité de les mettre en cluster directement sans avoir en fait à les joindre en fait à un domaine Active Directory, etc. Donc aujourd'hui il est possible de faire un cluster directement sans que les nœuds soient joints à un domaine Active Directory, donc on wargroup directement. Alors pour les besoins, effectivement on est encore limité. Mais vous avez quelques scénarios qui sont supportés, notamment donc la partie Hyper-V et surtout la partie SQL Server, donc qui est plutôt intéressante d'après les retours au MVP Summit. Hein, il y a beaucoup d'MVP qui ont aimé cette fonctionnalité qui leur permettent d'avoir des SQL Server en cluster et en wargroup directement. Donc ce qui permet en fait d'enlever la dépendance de l'Active Directory.
Ça fait un moment quand même qu'il y avait des demandes là-dessus, quoi.
Bien sûr, oui, ça fait un moment. Ça fait un moment. Je m'en souviens, il y avait déjà quelques votes par rapport à ça sur Internet, là, pour savoir si quand est-ce qu'on allait avoir donc justement cette fonctionnalité.
Sur User Voice, non, c'est ça.
Voilà, c'est ça exactement. Ouais. Ouais. Et puis, en 2016, Microsoft a pu réaliser cette partie. À savoir que également, on peut faire du cluster en multi-domaine. Hein, donc, si vous avez plusieurs domaines de votre organisation, il est possible également de faire un cluster de avec ces multi-domaines-là. Chose qui n'était pas possible, bien entendu, avant.
Vous voyez là une tendance, une demande forte de se passer de l'Active Directory comme ça ?
Non, pas spécialement, mais par contre, moi, ce que je vois, effectivement, c'est les IT qui sont plutôt VMware, donc ils travaillent énormément sur VMware, effectivement, me posent souvent la question, oui, mais j'ai un cluster Hyper-V, c'est gentil, mais j'aimerais bien avoir, en fait, ne pas le joindre à l'AD, etc. Donc, en 2012, je disais que c'était pas possible, aujourd'hui, c'est pas possible. Et effectivement, avec 2016, ça peut effectivement leur correspondre. Mmh.
C'est surtout intéressant quand notre DC, c'est une des VM, en fait. Hein, parce que,
aussi, par exemple.
Parce que joindre l'hôte à un domaine qui est lui-même dans la machine virtuelle, oui, hébergée par les hôtes. Voilà.
C'est un peu... Oui,
c'est ce que j'ai sur ma plateforme de test, mais je ne suis pas hyper fan. Quoi.
Ouais. Oh, c'est supporté, hein, y a pas de souci là-dessus.
C'est supporté, mais sur le fonctionnement en lui-même, voilà.
Moi, ce n'est pas là-dessus où je suis le plus intéressé. Moi, en fait, c'est la notion de jetable. En fait, ce que j'adore avec les ESX, c'est que quand on les intègre au vCenter, ils vivent leur vie, ils sont supprimés, on prend une galette, on prend une clé USB, on les réinstalle, ils intègrent le cluster, la configuration descend et tout va bien. Et en fait, la partie ESI, quand on intègre une machine à l'AD, c'est une action. C'est une action parce qu'on va la manager, parce qu'elle est remontée dans nos reporting. On a des choses à faire dessus. Voilà, il y a une notion, quand on touche à l'AD, tout de suite, c'est important pour l'ESI. Et pour moi, ce besoin, en fait, ce besoin et cette nouveauté est intéressante parce qu'on fait du jetable. J'ai beaucoup d'hôtes dans un cluster. Un hôte impacté ne va pas impacter mon service. mon service va rentrer en dégradé, et ben voilà, je prends ma galette, je réinstalle mon Windows Server, 4 clics et on n'en parle plus. Et c'est là où ça devient intéressant pour moi, en tout cas, c'est de pouvoir commencer à détacher mes hôtes et de dire bah, c'est du jetable. Moi, ce que j'ai besoin, c'est de fournir de la virtualisation. Et pour le reste, bah, on verra. Je les manage, hein, je les mets à jour, etc. Mais ça reste... Surtout si on commence à jouer avec du nano serveur, on commence à avoir des hôtes Hyper-V qui sont vraiment, vraiment, on va dire, avec le moins d'impact possible sur la SI.
Et en plus de ça, du coup, je reviens sur la partie configuration. Le cluster Wargroup se monte très, très, très facilement. Vraiment, c'est bien sûr, vous avez besoin donc d'un stockage partagé entre les deux, hein, par exemple, pour pouvoir stocker vos VM, etc. Par contre, la partie intéressante, c'est que bah, du coup, en fait, vous n'avez pas, effectivement, comme tu le disais, Michael, c'est que vous n'avez pas l'intégration avec l'AD, donc vous n'avez pas, quand vous avez créé votre cluster, vous n'avez plus donc, en fait, la notion de CNO, donc Cluster Name Object, dans l'AD. Donc, vous n'allez pas avoir déjà donc, d'écriture dans l'Active Directory, ce qui permet, du coup, bah, d'avoir, si vous voulez, une infrastructure simple et efficace pour moi. Donc, surtout sur la partie Hyper-V.
Super, bah justement, ça fait une belle transition avec le sujet de Michael.
Tout à fait.
Avant de passer à Michael, Céphala, tu as fait une autre présentation lors du MS Cloud Summit qui est intéressante également et qui concernait de la sécurité.
Oui, c'est ça. En fait, donc j'ai fait une présentation sur un produit qui fait partie de la suite EMS pour le coup. Donc c'est Microsoft ATA. Donc Microsoft ATA, en fait, c'est un produit qui permet en fait de faire l'analyse comportementale au sein d'un réseau, au sein d'un système d'information, et en fonction de ses comportements, il va vous faire un reporting intelligent. C'est-à-dire, c'est vraiment du machine learning. Donc je vous invite à lire mes slides donc, qui seront disponibles donc, dans ce podcast. Et ouais. C'est quelque chose en fait, de très, très intéressant. Pour l'avoir déployé en production, c'est un gros compte pour le coup, avec plus de 60 décès dans le monde, c'est quelque chose de très prometteur pour l'avenir.
Alors ça m'intéresse donc je ne te demande pas de citer ce grand compte.
Non, pour l'instant je ne peux pas, mais effectivement voilà. On pourra en reparler. Pascal,
je m'en doute. Oui. Est-ce qu'il y a des motivations, est-ce qu'il y a eu des attaques, ou est-ce que c'est pour prévenir des attaques, parce que c'est typiquement le genre de choses qu'on va mettre en place, parce que en fait ce sont des sondes qu'on va mettre derrière les contrôleurs de domaine.
C'est ça, tout à fait.
Pour monter des événements.
Juste deux mots, oui, effectivement, en fait, ça va. Microsoft ATA fonctionne sur. En fait, il va récupérer le trafic des contrôleurs de domaine, puisqu'il faut savoir que le contrôleur de domaine dans un système d'information, c'est un peu la pièce maîtresse, donc tout tourne, on va dire, de l'annuaire. Et en fait, ils vont donc capturer le trafic, et donc après, en fonction du trafic, en fonction de ce qui se passe, ils vont donc relier les informations. Et effectivement, pour répondre à ta question, Pascal, c'est que quelques attaques, donc forcément, ça oblige à mettre les moyens pour pouvoir donc sécuriser le mieux son système d'information. Voilà.
D'accord, ok. Bon, c'est super parce que ça doit être une belle expérience, effectivement.
Très, très belle expérience, très bon déploiement. Et puis, le produit continue de vivre. Donc, il y a des nouveautés qui vont sortir. Et forcément, il y aura l'intégration donc, avec le cloud, avec Azure, qui est plutôt prometteuse également.
Ouais, je pitch pas mal chez des clients, justement, le programme qui a été lancé par Microsoft, qui s'appelle Security Everywhere, qui permet en fait, de faire, au travers de workshops avec des clients... un petit tour d'horizon de la suite EMS, et c'est vrai que
c'est pas mal.
ATA, les gens connaissent pas,
oui, c'est ça,
présente
c'est...
pas, mais il y a un super besoin là-dessus. Et, voilà, je pense qu'il y aura aussi quelques annonces assez sympas qui seront faites dans le futur sur ce produit-là, donc il a un bel avenir en tout cas.
Effectivement.
Advanced Threat Analytics.
Analytics, exactement.
Ça. Okay. Fait partie de la suite EMS, E3 ou E5.
Pour les vrais.
pour les vrais.
Pour le speech marketing.
bravo. Michael, donc, tu voulais nous parler de Hyper-V 2016 et de ses nouveautés.
Exactement, parce qu'en fait, nous, contrairement à Azure et tout plein de choses, nous, les IT, on attend avec impatience les nouvelles versions de Windows Server. Puisque c'est ça qui apporte son lot de nouveautés. Alors du coup, Hyper-V aujourd'hui, je ne vais pas vous annoncer des chiffres magiques, parce que ça ne m'amuse pas. Je considère que c'est du marketing, les 64 vCPU par VM, les 1 Tera de RAM par VM, le support de 24 Tera de RAM par hôte, etc. je vous en passe. Il y a un superbe article TechNet avec des gros chiffres qui font plaisir à tout le monde. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu aucun client utiliser ce genre de machine en virtuel. Pourquoi pas en physique, mais en virtuel, pourquoi pas. Du coup, moi, je vais vous parler d'une fonctionnalité pour ceux qui aiment bien déployer. C'est pour Orchid Direct. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà joué un peu avec. Quand vous déployez une machine dans des clusters et qu'on veut automatiser plein de choses, on est obligé d'avoir un script qui va essayer de récupérer l'adresse IP pour ensuite essayer de se connecter dessus à distance. Et ben maintenant, depuis un autre, soit Windows 10, soit Windows Server 2016, bah oui, du coup, Windows 10 a le même moteur Hyper-V. Et si votre l'OS client, c'est du Windows 10 ou du Windows Server 2016, et ben vous faites Enter PS Session-VMName, vous mettez le nom de la machine, et hop, vous êtes connecté à la machine, moyennant son login mot de passe.
Ah, c'est top ça. Est-ce qu'il faut être en VM de génération 2
Oui, pour le coup, ouais. Ouais, avec l'OS. Et en fait, l'idée, c'est qu'on va pouvoir voilà, se loguer sur la machine pour pouvoir exécuter des scripts et pour pouvoir faire des tâches de maintenance dessus. Donc ça, c'est quand même pas mal, parce que du coup, dans les scénarios de déploiement, on se connecte à l'autre qui héberge la VM, et là, pour le coup, c'est facilement récupérable comme information depuis Failover Cluster ou SCVMM, et lancer notre campagne de script dessus. Donc ça, première fonctionnalité, vraiment pas mal.
Alors moi, je suis ravi que tu parles de ça, parce que j'en parle souvent, comme nouveauté que j'adore également dans Hyper-V, Windows Server 2016 et Windows 10, et puis je ne reçois pas souvent un écho... intéressé, disons.
Ah ouais. Bah, ce genre de choses. Pas de charge de déploiement alors parce que.
Alors que. Exact. Et oui.
Configurer du WinRM à travers le réseau.
C'est vrai que je l'utilise souvent. Et en plus, ce qui est juste pour compléter, Michael, ce qui est intéressant, c'est que la machine virtuelle en fait n'a pas besoin d'avoir donc d'accès réseau, etc.
C'est-à-dire
si vous avez.
Tu peux réparer le réseau grâce à ça, quoi. Exactement. Ouais,
c'est ça, parce que moi je fais déjà du PS Session, mais parce que mon Virtual Switch il est commun entre mon hôte et mes VM. Quoi. Sinon je pourrais pas le faire, parce que sinon il n'y aurait pas de communication réseau. Là effectivement c'est top parce que tu n'en as plus besoin. Quoi.
Exactement, c'est-à-dire que ta machine virtuelle n'a pas de réseau, tu peux quand même y accéder et la configurer, etc.
Donc voilà, ça c'est le premier point pour moi qui est important. Deuxième point. Alors, pour ceux qui me connaissent un peu, moi, je suis un grand fada de backup. Et il y a une fonctionnalité, ils ont un peu revu cette partie-là sur Windows Server 2016. On parle de production de checkpoint. Alors, qu'est-ce que c'est le production de checkpoint? Eh bien, en fait, c'est une nouveauté par rapport au snapshot ancienne génération. Vous savez, le mot magique, le snapshot en prod, jamais. Alors, on évitait les snapshots en production parce qu'il y avait un impact sur les performances et que c'était pour la plupart du temps pas supporté. Et bien là, du coup, les productions de SharePoint, c'est entièrement supporté sur Windows Server 2016. C'est d'ailleurs comme ça que les outils de backup vont pouvoir attaquer la sauvegarde des VM. Par défaut, c'est configuré pour faire du production de SharePoint. Donc voilà, si jamais vous allez du côté de vos configurations snapshots sur vos autres 2016, ben vous verrez que c'est coché par défaut. Ils seront en production de SharePoint. Et on peut même pousser, alors Microsoft nous le pousse comme ça, c'est restaurer un production de SharePoint, c'est comme restaurer une sauvegarde. C'est-à-dire qu'en fait, on s'assure vraiment que la machine, pour le coup, elle est vraiment dans un état, on va dire, parfait. Et ça, pour toi, Pascal, je sais que tu aimes bien ça, c'est que sous Linux, il y a même un effort qui est fait pour essayer de faire un SharePoint qui est consistant.
Oui, tout à fait, qui est cohérent au niveau du file system. Oui.
Exactement, donc du coup, il y a un petit effort qui est fait en plus par les integration services pour vider les buffers avant ce production checkpoint.
Oui, tout à fait. De toute façon, on essaye, hein, dans la mesure du possible, et c'est le cas maintenant, d'être iso-fonctionnel entre des machines virtuelles Windows et des machines virtuelles Linux. Donc, étant donné qu'on utilise la même plateforme de virtualisation dans Azure, on a vraiment intérêt à ce que ça se comporte de la même façon. Bon, dans Azure, on ne fait pas de checkpoint, mais bon.
Mais, vous voyez ce que bon, l'effort est là. Alors, du coup, je continue avec mes petites nouveautés l'automatisation. Je ne sais pas, pour ceux qui s'amusent avec ça, vous vous rappelez d'ajouter une carte réseau ou plutôt plusieurs cartes réseau à une VM, quand on se connecte à la VM, après, pour récupérer qui est, est matché vers quoi, c'est toujours un peu compliqué. Et voilà, du coup, en PowerShell, on peut mettre un tag sur la carte réseau virtuelle qui va être visible depuis l'OS. Donc, ce qui veut dire qu'on va pouvoir taguer voilà, notre carte virtuelle côté hôte qui est sur notre vSwitch production et un vSwitch voilà, ou interne, externe. Et bah, du coup, en une commande PowerShell depuis la VM guest, on va pouvoir récupérer ce petit tag qui va permettre de nous savoir où est matché notre carte réseau. Ça, c'est plutôt pas mal.
Ça peut être génial, ça. Est-ce que parce que j'ai pas regardé cette fonctionnalité-là, est-ce que ça concerne les cartes réseau uniquement synthétiques ou également les vieilles cartes réseau?
Alors, c'est les nouvelles en génération 2. Donc, du coup, il va falloir D'accord. que tu fasses un peu plus d'efforts mais... et que tu intègres les pilotes. Mais du coup, voilà, il y a cette notion de tag qui remonte sur ce guest OS. Et puis du coup, pour la petite nouveauté, hein, on peut ajouter aussi ou supprimer des cartes réseau à chaud sur les machines virtuelles.
Ça, c'est très intéressant par contre, pour le coup. Pour moi qui fais de l'hyper-V au quotidien, je peux vous dire que c'est quand même pas mal.
Après, il faut que tu aies des workloads où tu rajoutes des cartes réseau à chaud. Bon, c'est quand même assez rare.
Mais c'est déjà arrivé, donc c'est pour ça que c'était...
Ça sent le vécu.
Oui.
Ouais, non, ça c'est vachement pratique parce que à chaque fois je suis obligé d'éteindre ma VM. Après, ça va quand t'as ta carte réseau, ça passe. Tu peux changer de vSwitch, mais putain, qu'est-ce que c'est chiant quoi.
Ok. Ensuite, petit point quand même important pour ceux qui vont faire du rolling cluster upgrade. Comme tu le disais, Cephala, ne pas oublier de changer la version de la VM. Puisqu'en fait, en 2012 R2, les VM sont en V5. Donc du coup, même sur un cluster 2016, si votre VM existante reste dans cette version 5, elle ne pourra pas profiter de toutes les nouveautés que je viens de vous citer. Donc n'oubliez pas de migrer vos VM en V6. Alors c'est très simple, avec une commande PowerShell à exécuter, hein, c'est update-vm version, et du coup le nom de la machine. Donc ça, c'est un petit point important à ne pas oublier après sa migration vers 2016.
Par contre, un truc important, juste de mémoire, et je pense que ça l'est toujours, c'est que la VM, par contre, on ne peut pas le faire à chaud. C'est-à-dire que la machine virtuelle, au moment où vous allez upgrader sa version sur l'hyperviseur, la machine virtuelle doit être éteinte.
Oui, parce qu'il y a changement, de ses, de l'enveloppe, entre guillemets.
Donc ça peut se scripter quand même.
Ah, mais bien sûr, ça peut se scripter très facilement. De toute façon, je considère cette version de 2016 comme un vrai pas vers l'automatisation excessive, je dirais. C'est vraiment, voilà, il y a des nouveautés, tout ce qui est autour du storage, tout ce qui est autour du network, il y a de la préparation à la virtualisation de stockage, network. Et donc, du coup, l'hôte en lui-même est prêt à être entièrement scripté. On pouvait déjà faire énormément de choses sur 2012 R2, mais là, on voit qu'avec 2016, on essaie de scripter encore plus facilement et mieux, et pour que ce soit vraiment automatisé au maximum. Okay. Allez, je continue sur quelques petites nouveautés.
Oui, vas-y, fais-toi plaisir.
Allez, c'est parti.
Il est 21h, donc fais-toi plaisir.
Il y a une grosse nouveauté que j'attends. Là.
Bon, bah alors, pour toi encore, Pascal, l'intégration du Secure Boot pour Linux.
Oui.
Porté. Vous avez aussi le support de BitLocker pour les disques OS en génération 1, donc c'était encore une limite. Donc du coup, vous pouvez, si vous allez sur 2016 et que vous voulez garder cette machine en génération 1, vous pourrez supporter vous pourrez chiffrer votre disque OS avec BitLocker. Voilà pour le petit tour des nouveautés. Il y en a tellement que je vous invite plus à regarder nos slides de la préconférence. Avec Romain et Jean-François, on a essayé de traiter un maximum de choses avec des schémas. Et puis du coup, d'avoir vraiment une vision 360 des nouveautés Hyper-V.
Tu n'as pas parlé des shielded VM
et
et du virtuel, du TPM virtuel.
Oh bah, si tu me lances là-dessus, Pascal, on en a pour au moins une heure.
Fallait s'inscrire à la préconférence.
Oui, Pascal.
On a débattu longtemps. On parle même pas de Windows Container avec la différence entre Hyper-V Container et Windows Container non plus, Pascal. Donc après, ça fait trop de choses à dire. Cette nouvelle version apporte plein de choses.
Ok.
Donc du coup, les Shield VM, pour faire simple, sur des clusters que vous jugez, ou plutôt des VM, oui, plutôt que vous jugez extrêmement critiques. Bon, je vais en citer une, hein, l'Active Directory. Aujourd'hui, on a plutôt un peu peur que quelqu'un nous arrache cette VM et puisse faire des grosses attaques de hash pour récupérer nos mots de passe. Mais du coup, en fait, on va pouvoir faire des Shield VM. Alors, la notion de Shield VM va en fait avec une notion d'hôte qu'on valide, qui est plus sécurisée que les autres. Et en fait, cette VM, au moment où elle va être migrée sur ces hôtes-là, va être automatiquement chiffrée. Donc, tous ces disques OS plus data vont être chiffrés. Vous avez aussi l'enveloppe de la VM, donc tous les documents, la partie de template. Si Cephala, si le mot te revient, je suis preneur, puisque ça m'échappe. Et donc, du coup, vous avez toutes les informations qui composent la VM qui, elle aussi, est chiffrée. Donc, ce petit fichier est chiffré et tout le VM state, si vous essayez de provoquer le VM state de la VM, par défaut, c'est désactivé. Donc, votre VM sera coupé de force. Et même si jamais vous forcez l'activation, ça sera chiffré aussi. Donc, du coup, on protège les attaques en mode haute de nos VM, on va dire, un peu plus critiques.
C'est sympa, non, c'est super sympa. Est-ce que ça fonctionne en cluster ou pas, alors, du coup ?
Et ça fonctionne en cluster. Et donc, du coup, c'est vraiment une notion de cluster, en fait, où on va valider... c'est les host guardian qui s'occupent de ça et qui, en fait, va s'occuper d'avoir des clusters qui sont dédiés à ça. Donc, on parle bien, par contre, de dédier des clusters. Hein. C'est vraiment ça qui est important. C'est que vous allez avoir des workloads, on va dire, plus sécurisés que les autres. Et en fait, vous avez un rôle qui est le host guardian rôle, qui va en fait avoir ces notions de portée des machines critiques, on va dire.
C'est ça. Donc en fait, il te faut un cluster d'hôtes Hyper-V classique et un cluster d'hôtes Hyper-V renforcé, quoi.
Ouais, exactement. Et sachant que cette fonctionnalité, c'est uniquement pour les licences data center. Okay. Je faisais la partie au début, mais c'est vraiment intéressant. Pour cette partie empêcher l'attaque au niveau de l'hôte. Petit fait intéressant, si vous essayez d'ouvrir la console sur une Shield VM, vous voyez pas, c'est pas possible en fait. Le bouton console n'existe plus. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau de l'hôte Hyper-V, vous avez réussi à vous loguer sur l'hôte Hyper-V, vous voulez voir ce qui se passe sur la console, vous pouvez pas. Il n'y a vraiment plus cette notion d'attaquer ou de pouvoir regarder ce qui se passe dans la VM au niveau de l'autre.
Et du coup, vous l'avez vu chez des clients, ça, ou pas ? Ou c'est encore trop frais pour...
Alors, moi, pas du tout. J'en ai parlé, mais ce n'est pas aujourd'hui quelque chose dans lequel ils veulent se lancer. Il faut quand même une TPM, hein, puisqu'il y a une notion de VTPM. Donc, du coup, il faut quand même avoir prévu...
On n'est pas obligé de
faire
une TPM.
Pour moi, c'est pareil. Ça reste toujours dans... En fait, on a fait des POC chez client, mais en production pour l'instant, c'est pas, on va dire, d'actualité.
Et d'ailleurs, je suis en train de me penser, c'est pas obligé d'avoir la TPM.
Le TPM n'est pas obligé, non. On peut se baser sur une authentification dans l'Active Directory.
C'est quand même recommandé, en tout cas.
Ouais, tout à fait.
Mais bien sûr, oui, recommandé.
Voilà pour un petit tour des nouveautés Hyper-V, en tout cas pour ma part.
Et Michael, au MS Cloud Summit, à part la journée donc sur les nouveautés de Windows Server 2016, tu as fait d'autres présentations ?
Oui, j'ai fait une présentation toujours avec mon ami Romain sur l'hyperconvergence, où pendant une heure, on a pu présenter le modèle hyperconvergence dans Windows Server 2016, donc à savoir le storage et le compute réunis dans le même hôte physique. Donc l'intérêt, c'est clairement de pouvoir faire des infrastructures qui sont scalables, compute plus storage, et d'apporter une infrastructure beaucoup plus agile et de concurrencer Nutanix, il ne faut pas se mentir, qui aujourd'hui sont leaders sur cette partie-là. Donc du coup, c'était une présentation d'une heure, beaucoup plus ciblée vraiment que sur l'hyperconvergence.
Et t'en retires quoi du coup de cette session, l'hyperconvergence.
De l'hyperconvergence, on était tous hyper concentrés. Non, ça c'était pour la petite aparté. On a eu des retours qui étaient quand même assez concrets. des personnes qui s'intéressaient justement à ce modèle-là. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier, il y a l'offre vSAN chez VMware. Bon, il y a Nutanix qui fournit aussi la partie physique plus leur logiciel. Donc du coup, Microsoft était attendu, mine de rien, sur cette partie-là. Et je pense que Microsoft a répondu aux attentes. En tout cas, on peut monter de gros clusters avec cette technologie. Le PM est plus qu'actif sur les technos storage space direct, donc ça aussi ça apporte en tout cas ça rassure côté infra, hein. Je sais pas pour toi Céphala, mais moi de voir des articles qui sortent comme ça où la personne essaie d'expliquer comment ça marche réellement à l'intérieur, d'ajouter des fonctionnalités, il y a de la bonne prise de feedback.
Bien sûr, bien sûr. En fait, ce qui est intéressant avec justement l'équipe produit là, donc sur la partie clustering et storage, enfin la partie donc software defined, donc stockage et network, c'est que les PM en fait sont énormément donc actifs sur la partie réseaux sociaux, la partie partage d'articles, et surtout ils sont à l'écoute. Ils sont à l'écoute de nos feedbacks, ils sont à l'écoute en fait de nos questions. Ils sont là pour nous accompagner pour la partie déploiement quand on fait du POC, etc. Non, c'est vachement intéressant. Et puis juste, je relève quelque chose, c'est sur la partie donc hyperconvergence au niveau du stockage, enfin au niveau de la partie hyperconvergée, le fait donc d'avoir de la virtualisation et du stockage sur le même hôte, c'est que Microsoft en fait ils ont fait un petit projet, donc ils ont donc développé une petite infrastructure avec simplement deux nœuds, je sais pas si tu es au courant Michael, et en fait ça permet de générer des millions d'IO juste avec deux nœuds au niveau du stockage, donc c'est assez remarquable. Donc c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on peut mettre en production aujourd'hui, hein. Donc voilà, après
ah oui,
effectivement...
Il y a des workloads, attention, on parle de storage space direct, bon...
De millions d'IO, on parle de millions
d'IO. Voilà, on ne va pas rentrer, on va pas refaire un deep dive dessus, mais c'est sûr que vous supportez, si on se lance dans du NVMe plus du SSD, vous
c'est
imaginez
ça,
bien que les performances qu'on va avoir derrière ne peuvent être qu'exceptionnelles. Donc c'est aussi ça, la force de ce produit... Je cite Romain, qui déteste le SAN depuis qu'il a découvert ce produit-là.
C'est ça.
il est absolument fan de ce produit, donc je ne peux pas en parler à sa place tellement il en parle bien. Mais l'idée, vraiment, c'est de pouvoir arrêter le SAN, ou du moins essayer de le réduire au maximum, surtout sur des workloads qui demandent de la performance. Aujourd'hui, le gros problème du SAN, pour moi, c'est des workloads performants en VM. On avait toujours un problème, c'est qu'à un moment, il y a un goulot d'étranglement au niveau du SAN, trop d'IOPS tue l'IOPS, donc du coup, la baie commence à mettre en attente. Et on voit que sur des vSAN, on peut ajouter l'intérêt de la virtualisation et de pouvoir, avec de l'hyperconvergence, faire de la performance avec de la virtualisation.
Et un prix intéressant.
Et un prix intéressant.
Et un prix intéressant pour le coup, effectivement. Mmh. Bien vu Pascal.
Donc il faut absolument qu'on
marketing au passage.
C'est ça.
Il faut absolument qu'on fasse un épisode spécial stockage avec vous, avec Romain.
Ah, ça peut être intéressant.
Et puis avec Stan, là, parce que là je vous sens chaud comme la braise sur le
stockage. Ah oui, on est chaud, oui. Romain, Michael et moi sur la partie stockage, oui, c'est nous sommes un peu à fond sur cette techno, donc ouais, avec plaisir.
Et avec mon collègue Stanislas aussi qui a
donc, avec Stanislas bien entendu.
Parler stockage.
Et le stockage, exact.
Ok. Est-ce que vous avez une actualité communautaire bientôt, là, des présentations, des choses, des événements
Alors moi, je vais partir là au Canada. On va faire la OS Tour, donc on va faire plusieurs villes au Canada, donc Montréal, Québec et Toronto également, Ottawa. Donc je vais présenter en fait Azure Information Protection. Donc pour ceux qui connaissent, hein, c'est l'ancien, on va dire, enfin le nouveau nom de Azure RMS.
Tout à fait.
Et puis, en mars, en fait, il y a mon livre sur Hyper-V 2016 qui sort. Donc, je vous invite à l'acheter chez les éditions INI. Voilà.
Eh ben, on n'y manquera pas.
Merci.
Tu vas bien nous faire livrer une petite copie gratuite, Céphala.
on va essayer avec les éditions INI, avec plaisir. Pour les copains, mais pas de souci.
C'est quand le voyage au Canada?
Alors, le voyage au Canada, donc, là, je pars samedi, là. Donc, ce samedi-là.
D'accord.
Et puis, on va enchaîner une semaine de session. Avec donc nos amis AOS, donc avec Aurélien, Patrick, William, Gokhan, Hakim, etc. Et voilà.
En cette saison, là, vous n'avez vraiment pas peur.
Hein. Eh non, ouais. On n'a pas peur. Donc il va
pas
faire
froid. Pas ta canne à parce qu'il va faire froid là-bas.
Ouais, mais j'ai acheté une doudoune exprès, donc il n'y a pas de problème.
Ah, il en faut plus d'une, je crois.
Et plus d'une, je pense. Ouais.
Super. Michael, non, rien
Non, pour le coup, non, pas grand-chose. Je vais me focus sur... sur un client où je suis en prestation sur de l'innovation autour du data center et Azure. Donc, du coup, ça va me prendre pas mal de temps, je pense.
Moi, c'est pareil. J'ai pas d'actualité communautaire. Par contre, je vais avoir ma petite activité extra professionnelle annuelle fin février. Je donne un cours à la fac, en fait, dans une fac, un cours de sécurité Windows. Donc c'est toujours intéressant de re-réfléchir au problème général de la sécurité dans Windows avec les années. Ça fait pas mal d'années que je fais ça, mais chaque année je me dis, mais est-ce que ce cours est encore pertinent?
C'est vrai que fac et produits Microsoft, ça fait pas souvent bon ménage. Hein.
Effectivement, au début, on l'avait fait justement pour être présent et pour que les étudiants... Il s'agit d'un master sécurité, en fait, un master 2 en sécurité. Donc, ils ont pas mal de cours sur la sécurité en général, sur la sécurité de Linux, sur la sécurité applicative, web, etc. etc. La crypto en général. Donc, on a glissé un petit cours sécurité Windows au milieu de tout ça. Cela dit, de nos jours, la sécurité Windows, ça peut beaucoup moins se penser aujourd'hui sans le cloud qu'il y a quelques années. Il y a quelques années, parler juste de Active Directory, ben ça pouvait suffire. Aujourd'hui, il faut étendre un petit peu le modèle. Donc c'est toujours intéressant d'avoir une réflexion là-dessus sur comment on présente la sécurité dans Windows. Ou est-ce que c'est pertinent de parler que de Windows voilà.
Dans un écosystème effectivement Microsoft ou avec plusieurs acteurs en même temps, ça peut être intéressant effectivement.
Tu l'as bien montré, tout à l'heure tu as parlé data, c'est typiquement quelque chose qui participe à la sécurité d'un réseau mais qui se passe dans le cloud en fait.
Tout à fait.
Voilà, Maxime, quelque chose non ?
Moi il faut que je travaille sur ma nouvelle vidéo Deep Dive qui sera publiée sur Channel 9 et YouTube. Alors j'ai pas encore le sujet en tête, je sais qu'il faut que je la fasse assez rapidement. Pour garder un petit peu le rythme de une par mois. J'ai pas. Avec le MS Cloud Summit, j'ai pas eu le temps d'en publier une en janvier, mais donc je vais me rattraper début février. Donc voilà.
C'est pas là
aussi.
Stay
tuned, petit teaser.
Ouais.
Super, on attend ça avec plaisir, Maxime.
Ouais, c'est pas là, tu fais aussi des vidéos, toi?
Oui, bien sûr, sur Channel, oui, j'en fais régulièrement également. J'en ai fait 4-5, donc c'est pareil, en fait, ça traite un peu les sujets data center, un peu d'Azure, mais la partie infra, donc tout ce qui est partie cloud witness, la partie interaction entre le data center et Azure, effectivement.
Eh bien, écoutez, messieurs, est-ce qu'on a fait le tour ?
Oui.
Je pense que oui, hein, c'est l'heure d'aller prendre l'apéro, peut-être pas l'apéro.
C'est l'heure d'aller manger, surtout.
Exactement.
Dessert.
Écoutez, bon appétit à ceux qui n'ont pas mangé.
Merci beaucoup.
Bonne soirée à tout le monde. Pour nos auditeurs, puisqu'ils vont recevoir cet épisode vendredi, je leur souhaite un bon week-end. Et puis, merci messieurs. Et puis encore, à une prochaine fois. Merci Céphala.
Merci à toi Pascal. Merci à toi Maxime.
Merci à toi.
Merci Michael.
Merci à vous pour l'invitation.
Ouais. Et à très bientôt et merci à tous.
Et à bientôt.
Merci, bonne soirée.
Merci, au revoir.